Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle « Regarde ailleurs ». Donc « Regarde ailleurs », cette envie d'élargir sa vision sur soi, d'élargir sa vision sur le monde à travers des parcours de vie, à travers des expériences. Donc j'aime bien donner la parole à des écrivains, des réalisateurs, des voyageurs, des gens, des fois dans mon salon, comme c'est ton cas, Caro, ce matin. On vient de partager ensemble un cacao du Guatemala. Donc voilà, la dimension du voyage est déjà là, posée sur la table. Caro, c'est vraiment une rencontre qu'on va faire ensemble. Donc savoir un petit peu qui tu es, mais pour savoir qui tu es, on va déjà essayer de comprendre d'où tu viens. Et la première question, ça va être à partir de quel moment tu as eu cette envie de sortir de ton contexte culturel ou familial ? Parce que je crois que tu es né en Alsace, grandi en Alsace. Enfin bon, en tout cas, je te laisse te présenter.
Oui, donc j'ai grandi en Alsace. Je m'appelle Caroline Répert. Et j'ai passé quelques études à Strasbourg. Et puis j'ai travaillé un petit peu là-bas. Et puis quand j'ai eu 25 ans, en fait, je sais pas, j'avais comme toujours eu une envie d'aller voir ailleurs. Je sais pas, depuis que j'étais petite, j'ai toujours su qu'il y avait plus grand que la France et l'Alsace et que... j'avais envie de découvrir un peu le monde et les autres gens, les autres cultures, aller à la rencontre de l'autre. Et puis, j'ai jamais fait cette année de césure comme certains font après le bac. J'ai tout de suite enchaîné avec les études. Et je crois qu'à 25 ans, il y avait ce petit truc dans un coin de ma tête qui m'a fait me dire t'es toujours pas sorti de ton monde, quoi. T'es toujours pas allé rencontrer d'autres personnes. Et
avec tes parents, non ? Enfant, t'as pas été bercé là-dedans dans cette culture du voyage ? Parce que des fois, on peut avoir des parents voyageurs aussi. Est-ce que ça a été ton cas ?
Plus ou moins. On va dire non, pas vraiment. Mais en même temps, je suis quand même issue d'une famille française et portugaise. Donc j'ai une mère portugaise et un père français. Donc quand même une rencontre des cultures déjà aussi de base. Ce qui fait que j'allais pas mal en vacances au Portugal avec ma mère. Et puis on allait en Suisse aussi pour Noël, donc il y avait un petit peu ce côté, on avait ce voyage un peu, mais quand même juste dans la famille, quoi. Pas vraiment ce voyage d'aller à la rencontre d'autres cultures, c'était plus familial.
Donc tu finis tes études, tu dis que tu fais pas d'année de césure, tu continues le cursus, et avec cette envie qui grandit en toi de te dire, c'est peut-être le moment d'aller quand même voir ce qui se passe à l'extérieur.
Ouais, en effet. Il y a eu ce côté, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a tous un peu, on a envie de grandir et de voir au-delà du cercle familial et de ce qu'on a connu pour se découvrir soi-même un peu et qui on est par rapport au monde. Et j'ai aussi eu dans mon parcours relationnel, j'ai eu des relations stables hyper jeunes et puis à un moment donné, j'ai fini par être célibataire et je crois qu'il y avait un peu ce côté, j'ai pas d'attache. Je tourne un peu en rond dans le même bocal à Strasbourg depuis 7 ans. C'est chouette et tout, mais bon, je sais qu'il y a autre chose et je suis pas encore allée le voir. Il y a aussi quelque chose qui a joué un rôle en fait pas mal dans mon début de voyage. Ça a été que je travaillais aussi les étés, jusqu'à mes 25 ans, dans un centre international de vacances en Suisse. J'ai rencontré plein de gens, en fait. Tous les moniteurs, ils venaient un peu du monde entier, entre le Canada, l'Australie, l'Amérique, plutôt les États-Unis, je devrais dire, et pas mal d'autres pays, la France, l'Israël, l'Espagne, un peu de partout. Du coup, ça m'a donné des liens, en fait, un réseau aussi de nouvelles personnes que j'ai rencontrées au gré de ces étés. Et ça m'a donné envie d'aller leur rendre visite, en fait. Je me suis dit, c'est une opportunité aussi d'aller rendre visite à des copains, un peu à l'autre bout du monde. Et c'est ça aussi qui m'a un peu ouvert les portes, je pense. Aussi parce que l'anglais, c'était quelque chose qui devenait plus courant pour moi. Tous les étés, je parlais en anglais, quoi. Donc ça m'a ouvert des portes et ça m'a ouvert mon imagination et mes rêves aussi par rapport au voyage. Et j'ai commencé comme ça en fait, en allant rendre visite à des copains que j'ai rencontrés dans ce centre de vacances.
C'était quoi les premières destinations, alors les premiers pays ?
Le tout premier pays vraiment, ça a été les États-Unis. Ce qui peut paraître un peu hors du commun, peut-être parce que beaucoup de personnes vont plutôt en Asie ou en Inde pour leur premier voyage ou en Amérique du Sud. Mais moi, dans le centre international, j'avais rencontré pas mal de personnes des États-Unis. Et je m'étais fait vraiment des bons copains de Californie, à qui j'ai vraiment bien déliré. Et puis, il y a eu aussi un petit murmure dans mon oreille de ce festival ou ce rassemblement en fait dans le désert qui s'appelle le Burning Man, que certains connaîtront peut-être. Et j'avais un de ces bons amis qui y allait en fait en été. Et ouais, ça m'a un peu plu parce que j'avais aussi entendu parler de ce rassemblement via cette émission d'Antoine. Je ne me rappelle plus son nom.
Antoine de Maximi, J'irai c'est dormir ça. Chez vous.
Exactement, J'irai dormir chez vous. Une très bonne émission que je suivais vraiment beaucoup aussi, parce que ce côté voyage aussi qu'il a beaucoup, qui me plaisait. Donc ça m'avait aussi ouvert l'esprit sur ce rassemblement, puis mon ami qui y allait. Donc en fait, chose en entraînant une autre, j'ai commencé par les États-Unis en allant dans ce festival.
Donc tu as fait un Burning Man ou tu en as fait plusieurs?
Oui, à ce jour j'en ai fait trois. Enfin, j'y suis allée trois fois. Donc j'ai aussi développé un peu une communauté là-bas.
Alors je veux bien que tu reviennes sur cette expérience, parce que bon, le Burning Man, alors moi je n'y suis jamais allé, mais c'est vrai que j'ai cette image, quelque part au milieu du désert du Nevada, je crois, des gens qui se retrouvent sur une durée indéterminée à brûler une sculpture ou quelque chose qui est... Et quand on voit les photos qui circulent de cet événement, c'est complètement dingue, parce qu'on a l'impression de vivre sur une autre planète, une autre réalité. Donc qu'est-ce que c'est qu'un Burning Man, et qu'est-ce qu'il s'y passe sur ce rassemblement?
Ouais, c'est assez difficile de décrire avec juste quelques mots, parce que vraiment, c'est une expérience assez fantastique et magnifique et assez riche en émotions. Et enfin voilà, c'est une expérience très large, dans le sens qu'il peut vraiment tout se passer là-bas. C'est très beau ce qui peut se passer. Déjà, pour moi, enfin, je l'ai vécu déjà en... 3 années différentes, vraiment à 9 ans d'intervalle, je crois, les trois années, enfin 9 ans de temps. C'est un rassemblement, pour faire court, c'est un rassemblement de personnes qui ramènent tout ce qui est nécessaire pour vivre dans le désert. Donc ça, l'eau, la nourriture, aussi l'abri contre le vent, la tempête, parce que du coup c'est un désert, donc il y a pas mal de tempêtes, de sable aussi. Et c'est un rassemblement assez fou, alternatif de personnes qui ont envie de créer un autre genre de vivre ensemble, où l'économie elle est basée sur le don, il n'y a pas d'argent vraiment de circulation. Alors forcément, y a tout l'argent pour financer tout le côté, transporter tout ce matériel... au milieu de nulle part, et tout l'investissement de matériel qui est fait en amont, mais quand même la base de se vivre ensemble dans ce désert, bah en fait où vraiment tout le monde est là pour survivre parce que il y a clairement rien, donc t'es obligé de tout ramener, forcément c'est un désert, donc il y a ce côté solidaire qui et entraide qui se met vraiment à jour à fond en fait dans ce lieu là. Un peu, on est tous ensemble dans le même panier, quoi. Et du coup, bah, il y a un peu un élan communauté, de partage, d'entraide qui se met vachement en lien et de communauté, de fédération autour de camps, en fait. Parce que sans le camp, on n'a pas cette base pour survivre dans ce désert. Et ça crée des liens, ça renforce, on construit ensemble. Le camp, sous le soleil ardent du désert, on est tous ensemble dans cette galère. Et ça crée aussi... c'est aussi une grosse plateforme artistique, en fait. C'est aussi un grand rassemblement d'artistes qui ramènent aussi leurs dons, en fait. Certaines personnes ramènent leurs dons par le travail, la force humaine, des mains qui construisent la ville qui se construit en une semaine. Et d'autres ramènent aussi beaucoup d'art, de création, qui viennent pour partager simplement avec la communauté. Et ça, c'est vraiment beau aussi. Tout le monde, en fait, donne de soi, de son temps, de son cœur, de son amour pour partager et être ensemble. Et c'est un truc aussi phénoménal parce que c'est énorme. Il y a 70 000 personnes dans le désert.
Donc c'est un rassemblement de 70 000 personnes sur combien de temps?
Alors, il y a, on va dire, globalement, vraiment, le festival est ouvert 8 jours. légalement, tu vois, il y a une structure légale aussi autour du festival. Donc du dimanche où il commence jusqu'au mardi suivant, donc ouais, t'as 10 jours même. Mais avant, il y a toujours pas mal de personnes qui viennent pour construire, donc tu peux avoir des fois 2 semaines de construction, on va dire 1 semaine, 10 jours de construction du camp, ensuite la semaine de festival, et après t'as 3-4 jours des fois pour tout démonter. Donc tu peux être facilement 2-3 semaines dans le désert.
Donc c'est vraiment une manière de réinventer le vivre ensemble, expérimenter quelque chose d'assez unique où tout le monde se retrouve pour construire, bâtir dans cette créativité, dans cette fraternité, dans cette sororité, pour vivre ensemble le lien et à la fin brûler un man. C'est quoi ? Pourquoi Burning Man ?
Alors ouais, il y a ce côté en fait que j'ai trouvé avec le temps et mon développement personnel très chamanique en fait dans ce festival, pour moi en tout cas, dans la façon dont je m'y retrouve, c'est que bah, t'es vraiment confronté aussi aux éléments, quoi. D'être dans le désert avec le vent, les tempêtes, et puis aussi ce côté le feu, quoi. Donc il y a un peu pour moi un effet assez transformatif de ce festival, parce que déjà tu déconstruis complètement la façon dont tu conçois la société, tu te rends compte qu'il y a d'autres façons de faire, que bah, les gens ils t'offrent très de bon cœur beaucoup de choses, ils partagent avec toi, il n'y a pas d'argent du tout, quoi. Sur le festival, une fois que tu es rentré, bah, y a plus d'argent, quoi. C'est tout est du... Mais même pas du troc, en fait. C'est juste les gens, ils viennent pour partager ce qu'ils ont avec n'importe qui, le premier passant, toutes les personnes à côté d'elles. Et bah, du coup, il y a ce côté un peu transformatif du fait de clash de conscience, de ce qui est possible de vivre ensemble. Et il y a beaucoup de... Tu te confrontes... Enfin, moi, je me confrontais beaucoup à ma conception de ma vie, de la spiritualité, de l'échange, du partage, de vivre ensemble, de la sincérité des personnes. Et ça m'a fait aussi beaucoup me transformer, en fait, parce que je crois qu'il y a aussi quelque chose d'assez magique qui se passe du fait qu'on est dans le désert avec rien. C'est qu'il y a vraiment ce don, en fait, qui se met en place. Et puis, cet amour universel, il y a beaucoup des créations qui sont aussi vraiment tournées autour du partage ensemble, de créer ensemble. Même il y a certaines œuvres qui sont interactives, qui font que tu es obligé d'être en connexion pour que l'œuvre elle fonctionne.
Mais ça me fait penser un peu au rassemblement Rainbow, la Rainbow, ouais. Family, hein, où il n'y a peut-être pas cette dimension où ça se passe dans un désert, mais c'est aussi une sorte de famille internationale où on se retrouve sur un mois, sur un calendrier lunaire, avec cette envie de célébrer l'amour, la joie, le fait de faire ensemble. Ça me fait penser à ça. Je sais pas si t'as expérimenté les Rainbow. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des différences si tu as vécu cette expérience Rainbow aussi?
Alors c'est marrant parce qu'on m'a posé la question de nouveau il y a pas longtemps à propos des Rainbow. Quelqu'un croyait m'avoir vu là-bas, mais en vrai j'y ai jamais été. J'en ai déjà beaucoup entendu parler et c'est génial. Enfin, c'est vrai que ça donne envie aussi parce que c'est vrai que ça s'apparente pas mal à ça, à cette philosophie de cette famille internationale où...
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
C'est rare d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Mais au-delà de ça, ce que je trouve intéressant dans cette notion de festival, de rassemblement, de collectif, c'est cette envie de célébrer ensemble. On est quand même dans un monde où on souffre d'une soif d'essentiel. Hein, on parle d'isolement, finalement, un des grands mots, des grands mal de notre société, c'est l'isolement social. On l'a vu pendant le Covid, beaucoup plus de gens ont souffert de cet isolement plutôt que de la maladie elle-même. Et c'est aujourd'hui, j'ai l'impression que ça émerge, ce besoin de se remettre en lien. Hein, dans un monde où on a trop peut-être axé notre développement sur le bien-être matériel et plus tellement sur le développement de notre être, hein, et le développement de faire et de vivre ensemble. Donc voilà, je trouve que c'est un peu une réponse à nos problèmes de société et de se rendre compte que souvent ces rassemblements, ben, de plus en plus de gens viennent, sont présents, mais souvent ça dure un temps limité. Après on retourne dans son quotidien. Donc comment est-ce qu'on sort d'un Burning Man ? Qu'est-ce qu'on fait après avoir vécu 10 jours d'intensité ? Voilà, comment est-ce qu'on sort de cette expérience ?
Bah ouais, ça, je pense que c'est un peu le challenge auquel on peut tous faire face en rentrant d'un festival, d'une retraite, d'une cérémonie, ou peu importe la rencontre qui nous a changé, ou en tout cas qui nous a complètement déconstruit notre façon de nous percevoir ou de percevoir le monde. Donc ça, c'est une question assez universelle, je crois. Et c'est un peu le centre de mon travail, en fait, de ce en quoi j'ai vraiment envie de développer. C'est ce côté intégration, comme on dit, ou incarnation, de comment faire retourner un peu notre transformation et nos apprentissages à la maison. Donc c'est une question assez centrale dans ma vie, dans ce que je fais, dans mon travail. Et ça me passionne un peu parce que justement, d'avoir vécu toutes ces expériences différentes, maintenant même dans le tantra aussi, que j'ai aussi découvert aussi un peu Burning Man. J'ai pas vraiment d'éléments de réponse toute faite par rapport à cette question de, mais je crois qu'en fait ça passe par vraiment être dans son corps, être dans l'instant présent, savoir être dans son cœur et être vraiment avec ce qui se passe en face de nous au moment donné. C'est aussi ça beaucoup. D'ailleurs, c'est un des principes du Burning Man, c'est qui s'appelle. Enfin, il y a 10 principes en fait qui fédèrent, qui donnent un peu des règles autour du concept de la communauté. Et un de ceux-là, un des 10 principes, c'est immediacy. Donc, ça veut dire en gros être là, dans l'instant présent, maintenant. Et je crois que ça offre une des clés pour être vraiment dans le ressenti en fait de ce qui se passe en nous déjà premièrement dans notre corps, à travers les sensations, et d'être vraiment honnête avec ça. Et de pas trop s'occuper de ce qu'il y a avant ou de ce qu'il y a après, mais d'être vraiment là, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me rend libre et me fait vraiment vibrer, et qui m'a vraiment fait vibrer aussi au Burning Man. Et je crois que c'est un peu ça aussi la clé de tous ces rassemblements. C'est qu'on est ensemble dans l'instant présent. On n'a pas trop de téléphone, on n'a pas trop d'autres choses qui se passent ailleurs, en fait, qui nous concernent. On est vraiment là ensemble dans l'instant qui nous lie. Et je crois qu'en fait, c'est ça qui va nous permettre, qu'on peut revenir, retenir de toutes ces expériences de rassemblement et de festival. Et qui va faire qu'on peut le ramener à la maison, c'est de comprendre que ce qu'on a vécu là-bas, on l'a vécu là-bas si fort et si beau parce qu'on était le présent là-bas. Et donc, si on garde cette qualité de présence avec nous, qu'on en garde cette leçon, bah, c'est ça qui fait qu'on peut le garder avec nous, en fait.
La qualité de la présence. Bon. Tu me demandais, Caroline, avant, tu disais, je me demande ce que tu vas me poser comme question. Et en fait, l'émission Regarde ailleurs, c'est, je sais jamais quelles questions je vais poser aux gens, mais j'apprends à les écouter. L'idée, c'est vraiment ça, de prendre le temps de rentrer dans l'univers d'une personne. Et avec toi, c'est facile parce que tu me poses des mots. Donc, du coup, j'ai envie de les définir. C'est des mots qu'on entend beaucoup. Tu m'as dit, le Burning Man, presque une expérience chamanique. Donc, on va parler du chamanisme. En tout cas, de ta définition du chamanisme. Tu m'as dit, tu as découvert le tantra, donc ça c'est aussi quelque chose qui émerge aujourd'hui, on entend beaucoup parler du tantrisme, donc voilà, j'aimerais commencer par le chamanisme, qu'est-ce que c'est que pour toi ?
Le chamanisme, en fait, pour moi c'est un retour au corps, un retour à la terre, c'est un retour à la dévotion et le fait d'honorer la nature, en fait, ça passe vraiment, pour moi c'est ça. C'est de revenir aux éléments, de se renouer avec nos racines aussi, beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, le terme chamanique, il est très employé pour les cultures sud-américaines. Mais bon, le chamanisme, ça vient aussi de Sibérie, beaucoup. C'est un peu ça les origines de ce que j'en ai appris. Mais clairement, ça parle de renouer avec ses racines, renouer avec la terre, renouer avec... ce qui se faisait avant nous dans notre lignée, avec nos ancêtres. Aujourd'hui, on a un peu perdu tout ça dans nos cultures européennes. Même cette culture aussi, l'herbologie, tu vois, de savoir travailler avec les plantes, ça, on l'a beaucoup perdu. Donc, c'est aussi renouer avec ce genre de choses et puis se mettre au courant de ce qui se passe dans notre corps et dans l'intuition aussi, beaucoup.
Alors c'est vrai que le mot chamanisme vient de Sibérie, mais en fait toutes les traditions, tous les peuples, nous on a eu nos Celtes, ouais, on parle de marabout, on parle en Afrique, enfin voilà, chaque tradition, chaque culture, chaque continent a toujours eu ces hommes médecine, ceux qui font un petit peu le lien entre le visible et l'invisible. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un engouement pour le chamanisme avec un grand C, parce qu'il y a ce besoin de se reconnecter à quelque chose qu'on a perdu, hein. Tu parles de la nature, donc je pense qu'aujourd'hui effectivement il y a Et dans toute cette sphère du développement personnel, de New Age ou de l'écologie intérieure, hein, on sent bien qu'on a besoin de trouver des clés de compréhension pour un mieux-être. Apparaît souvent le tantrisme aussi, le mot du tantrisme. Mm-hmm. Donc qu'est-ce que c'est que le tantrisme qui là vient donc d'une tradition hindouiste pour le coup?
Mm-hmm. Bah, du coup, moi, c'est très proche pour moi le tantra parce que je travaille aussi en tant que masseuse tantrique.
Alors, reviens peut-être sur ta rencontre avec le tantra. Qu'est-ce qui fait, comment ça s'est passé, comment tu l'as découvert et qu'est-ce que c'était pour toi et qu'est-ce que ça t'a apporté?
Alors, le tantra, je l'ai découvert. Disons que la première fois, c'était vraiment. Je connaissais quelqu'un qui faisait des études dans le tantra, qui a fait un stage avec, plusieurs stages même, avec Margot Hanon en France. Et qui devenait professeur de tantra. Et du coup, j'ai un peu entendu ça à travers lui les premières fois, même si j'avais déjà pu entendre parler déjà avant, puisque au Burning Man, il y avait déjà un peu ces notions, avec des workshops des fois un peu autour du tantra, du néo-tantra en fait, plutôt, hein, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'était quelque chose qui était un peu aussi pareil dans un coin de ma tête. Enfin, voilà, je savais qu'un jour, j'allais m'y intéresser et revenir un peu plus près de ça, même si je n'avais pas encore vraiment le chemin tout tracé. Et puis, il y a eu un jour un temple duquel j'ai entendu parler via une coach avec laquelle je travaille en ligne. Et du coup, je suis allée à ce temple-là parce qu'il me parlait. Et d'ailleurs, c'était un temple qui faisait un tantra chamanique. Donc, le côté élément m'a beaucoup plu. Et puis, il y a aussi ce côté rituel, en fait, qui est aussi très chamanique et qui parle, en fait, au subconscient. Tout ce qui est ritualisé est un langage du corps et un langage du subconscient. Donc, moi, ça m'a beaucoup parlé d'aller dans un tantra qui était aussi autour de la nature, des éléments. Bah ouais, en fait, j'ai découvert ça la première fois dans un temple. Un temple tantrique et j'ai découvert un peu aussi de nouveau cette dimension de liberté où je déconstruisais aussi des concepts de moi-même, de l'identité ou de, disons, la perception que j'ai de moi-même et de mon identité, de ma conscience. Et ça m'a fait un peu déconstruire pas mal de ces schémas, réapprendre aussi des schémas émotionnels, des mécanismes qui peuvent se jouer dans les relations. Et j'ai découvert qu'il y avait une autre façon de faire et de déconstruire tout ça, et que autour de la sexualité, il y avait aussi beaucoup de choses à aller analyser ou à regarder de plus près, et à déconstruire aussi, des conditionnements de notre éducation, de la société, etc., par rapport à la honte autour de la sexualité et tout ce tabou. Du coup, pour moi, ça a été hyper intéressant d'aller aussi déconstruire ça jusqu'au plus profond et au plus discret de la sexualité. Et donc, le tantra ou le néo-tantra apportait ça pour moi, le travail de recherche sur moi-même, sur ma personne, et sur qui m'a permis aussi d'aller regarder plus loin.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Caroline, j'ai l'impression que tu es une chercheuse voyageuse qui se pose des questions sur le sens de la vie. Donc ça a commencé par les États-Unis, hein, tu disais, un premier voyage attiré par ce rassemblement qu'est le Burning Man, où on fait des rencontres souvent inspirantes, et c'est souvent une rencontre qui va pouvoir un petit peu nous guider sur notre chemin de vie finalement. Hein. Des fois c'est bien de sauter sans filet, parce que souvent le filet apparaît et c'est en partant sans plan que tous les plans sont possibles, ou tout est possible à chaque instant. Donc après les États-Unis, est-ce que tu continues l'exploration, le voyage, ou comment tout ça continue, comment ton aventure continue?
Bah alors, il y a eu les États-Unis, ouais. J'y suis retournée du coup 3 fois en tout. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'au retour des États-Unis, ça a complètement changé ma vie déjà, enfin ma vision de ce que je pouvais faire dans ma life. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des saisons en Suisse après. Je suis revenue du voyage sans boulot et j'ai trouvé des boulots en saison. Et en fait, le fait d'être en saison, ça m'a permis d'avoir pas mal de temps de vacances entre les saisons, au printemps et à l'automne. Et du coup, à chaque fois, chaque printemps, chaque automne, je partais un peu quelque part, un mois, 2 mois. Et c'est ça qui a un peu continué de me faire voyager. Donc dans ces petits mois de par-ci par-là, je suis allée au Mexique, je suis allée en Thaïlande, au Cambodge, je suis allée au Maroc pas mal aussi.
Avec un objectif particulier ou quel était le but quand tu me parles du Mexique, de la Thaïlande, du Cambodge ou du Maroc? Est-ce que tu d'explorer le monde, d'explorer l'autre ou
Je crois qu'au début ça a été de rencontrer l'autre, mais aussi continuer de me rencontrer moi. Parce qu'en fait, si tu veux, ce qui s'est un peu passé au Burning Man pour moi, et après j'étais en saison en Suisse, ça s'est pas déclenché tout de suite, disons, le changement pour moi ou les répercussions, l'intégration en fait de ce voyage du Burning Man a arrivé plutôt 4 ans plus tard. Du coup, entre temps, j'avais un peu toujours cette soif de découvrir l'autre, mais peut-être aussi de me découvrir moi-même. Et aussi, je continuais d'aller voir des copains qui habitent au Mexique, un copain qui habite au Cambodge. Je continuais d'aller rendre visite à des amis en fait dans mes voyages, même au Maroc aussi. Enfin, donc ça a été, je pense, une envie et toujours cette soif de découvrir le monde et découvrir l'autre. Mais peut-être qu'il ne s'était pas encore placé de « Ok, maintenant il y a un but dans mes voyages ». Au début, je pense que c'était plus une recherche de « Qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire avec ça ?»
Alors ça, c'est assez récurrent, cette envie de voyager pour se rencontrer soi, pour se découvrir soi. Je pense qu'on a vraiment besoin, à un moment donné, de s'extraire de notre contexte social, familial, culturel. Et donc, c'est ce que tu es allé faire. Mais dans cette exploration, souvent se pose la question aussi de comment trouver sa place dans ce monde, hein, parce que voyager, c'est d'une densité, c'est d'une richesse incroyable, mais vient quand même toujours à un moment donné, là, que ce soit la pression sociale ou familiale, Caro, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ou qu'est-ce que tu fais dans la vie, ou vers quoi est-ce que tu te diriges, voilà, donc comment est-ce qu'on fait, ou comment est-ce qu'on trouve du sens pour essayer d'être aligné entre ce qu'on découvre et ce qu'on explore, et la manière dont on va incarner notre énergie, notre temps, hein, dans quoi est-ce qu'on met notre temps, notre énergie finalement dans un monde qui est en transformation?
Waouh, ça c'est une grosse question, je crois. C'est vrai que c'est pas simple, donc je crois que ce que tu me demandes, c'est un peu comment je fais pour allier le quotidien ou le retour à la maison
Je crois que ce qui nous différencie des générations passées, c'est qu'avant on se posait moins de questions. Nos grands-parents se mariaient jeunes, avaient un enfant, une famille, un boulot et voyageaient peu ou peut-être pendant les 15 jours de vacances qu'ils avaient. Il n'y avait pas cette dynamique qu'on observe aujourd'hui où de plus en plus de jeunes ou même de moins jeunes font un pas de côté et puis c'est vraiment cette envie de remettre du sens là-dedans. Mais c'est pas simple parce que du coup, quand on cherche le sens, c'est dur de le trouver.
Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai. Je crois que, ouais, c'est vraiment, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Il y a le côté, comment en fait conjuguer un peu, enfin, ouais, faire un sens de nos voyages, quoi. Que ça ait un peu, ouais, un sens dans la vie, quoi. Est-ce que, comme tu disais, cette question peut-être de la famille qui vient de, mais en fait, tu fais quoi, c'est quoi ton but ou quoi. C'est une question vraiment pas évidente, je pense, dans notre génération, d'arriver à faire sens de nos voyages et pas juste les consommer aussi, quoi. Je crois que moi, j'y trouve du sens en essayant de ramener un peu mon savoir et ce que j'ai appris dans la façon dont je suis aujourd'hui avec l'autre, quoi, dans la façon dont je suis ouverte en fait à l'autre, et de pouvoir aussi me changer moi et être moi heureuse et bien dans ce que je suis et dans mes rapports aux autres, et qui peut-être inspireront la famille, l'arbre de la pirogue, à voir que y a des choses qui peuvent être retenues. Enfin, voilà, tout ce que je pourrais partager en l'incarnant, en fait, de ce que j'ai appris autour de moi, dans mon quotidien, dans cet instant présent, de nouveau, une fois, encore une fois, ça va être ça, je pense, qui fait un sens. C'est quand on peut revenir et savoir d'où on vient et savoir qui on est dans ce sens-là, de pas l'oublier non plus, dans le sens que pas le renier, quoi, parce que ça a été une phase aussi par laquelle je suis passée, où un moment dans mon développement, c'était que je voulais plus rien entendre parler des choses d'avant, mais ouais, ce qui fait sens, c'est peut-être de ramener ça à la maison, dans se changer soi, de se recentrer soi, d'être dans cet instant présent, de partager son être avec authenticité et bienveillance et ouverture, et c'est ça qui peut faire sens, en fait, peut-être. Pour soi-même déjà, premièrement, et puis ensuite pour peut-être pouvoir en faire bénéficier aux personnes qui nous entourent, ou notre famille, ou nos amis.
Cette notion de sens et d'équilibre, hein, et c'est vrai que c'est jamais acquis non plus, parce que des fois on a l'impression de trouver sa place à un endroit, et puis les choses changent. Hein. S'il y a une phrase que je retiens du Bouddha, c'est que rien n'est permanent si ce n'est que le changement, et c'est vrai que cette recherche d'équilibre, elle est importante, mais voilà, faut tout le temps retrouver cet équilibre. Dans ton parcours ou dans tes lectures, est-ce que toi, tu as des choses qui t'ont inspiré, peut-être des bouquins, peut-être des films ou peut-être une rencontre que tu as envie de partager avec nous?
Alors, un livre, moi, qui m'a vraiment beaucoup parlé, et je pense que c'est un livre que j'ai très envie de relire et relire et relire, parce que j'ai l'impression que chaque lecture pourrait m'apporter une autre perspective sur moi-même, c'est Les 5 niveaux de l'attachement. Donc, c'est le fils de celui qui écrit le livre des 4 accords Toltec. Et en gros, il revoit un peu ces 5 niveaux d'attachement. De à quel point on peut être attaché à quelque chose, à une idée ou à une croyance aussi. Et en fait, ce livre m'a complètement bluffée. Ça m'a fait revisiter un peu toutes mes croyances et à quel point j'ai été aussi attachée à l'identité de moi-même, en fait, ou attachée à n'importe quoi. Enfin, ouais, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup plu. Les 5 niveaux de l'attachement. Il est vraiment chouette.
Merci, Caro.
Merci à toi, Alex, pour l'accueil.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.